Au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Dernière minute, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, emprisonné pour corruption en Afrique du Sud, va bénéficier d'une autorisation de sortie exceptionnelle pour assister aux funérailles de son frère ce jeudi, ont annoncé les autorités pénitentiaires. L'incarcération de Zuma a déclenché des émeutes et des pillages qui ont dégénéré dans les pires violences depuis la fin de l'apartheid, faisant au moins 276 morts selon le bilan officiel. Le commandant de la force française Barkhane, le général Marc Corry, a affirmé ce mercredi à Ouagadougou que les armées des pays du Sahel sont tout à fait capables de s'opposer aux groupes djihadistes, il l'a dit, à l'issue d'une audience avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore. La Côte d'Ivoire espère pouvoir vacciner 60% de sa population adulte contre le Covid-19 d'ici à la fin de l'année, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement, voulant accélérer dans ce domaine où de nombreux pays d'Afrique sont en retard, faute de doses disponibles. Pour le moment, l'Afrique dépend principalement du mécanisme international COVAX et de dons qui arrivent au compte-gouttes. Par ailleurs, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé hier la mise en flacon de leur sérum en Afrique du Sud à partir de 2022 pour largement approvisionner le continent africain. Moins de 2% des Africains ont reçu 2 doses de vaccin, selon l'OMS. Le Burkina Faso a reçu mercredi 151 200 doses de vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19 offert par les États-Unis moins de 2 mois après le lancement de la vaccination au Burkina. Ce don fait partie des 80 millions de doses annoncées par le président Joe Biden le 17 mai. A déclaré l'ambassadrice américaine Sandra Clark. Les États-Unis ont jugé très inquiétantes les informations faisant état de l'arrestation du chef du principal parti d'opposition tanzanien Freeman Mbowe. Il rappelle que le secrétaire d'État Anthony Blinken avait demandé début juillet à la présidente Samia Suluhu Hassan de garantir les droits politiques et les libertés. Au moins 17 migrants sont morts noyés après un naufrage qui s'est produit au large de la Tunisie à d'hier, le Croissant Rouge tunisien. Plus de 380 migrants ont aussi été secourus par les gardes-côtes tunisiens. Le bateau était parti de la côte nord-est de la Libye avec à son bord des migrants originaires de Syrie, d'Égypte, du Soudan, de l'Érythrée, du Mali et du Bangladesh. Les inondations dans le centre de la Chine ont fait au moins 33 morts et 8 disparus, selon un nouveau bilan diffusé jeudi par la télévision nationale. Des précipitations records se sont abattues mardi soir sur la grande ville de Jiangsu, engloutissant une partie du métro et emportant des centaines de véhicules. Wendy Sherman, numéro 2 du département d'État américain, va se rendre en Chine lors de la visite de plus haut rang de la diplomatie américaine depuis l'élection du président Joe Biden, sur fond de relations tendues entre les deux principales puissances économiques du monde. L'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein, qui purge déjà une peine à New York, a plaidé non coupable hier devant un tribunal de Los Angeles des 11 accusations d'agression sexuelle et de viol porté contre lui en Californie. Le rover de la NASA sur Mars, Perseverance, va commencer d'ici 2 semaines à prélever des échantillons de roches sur le lit d'un ancien lac, le cœur de sa mission sur la planète rouge, a indiqué ce mercredi l'agence spatiale américaine. Le responsable de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo a été démis de ses fonctions à cause d'une blague sur l'Holocauste remontant à plusieurs années, ont annoncé aujourd'hui les organisateurs un nouveau coup dur pour l'événement à la veille de l'ouverture. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Sedoudia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara va rencontrer son prédécesseur Laurent Gbagbo le 27 juillet pour la première fois depuis le retour de M. Gbagbo dans son pays. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
La rencontre a été annoncée par Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, lors d'une conférence de presse. Les deux hommes ont eu un contact téléphonique début juillet, a-t-il ajouté. Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin et lors de sa rencontre avec Henri Konan Bédier le 10 juillet, il avait appelé Alassane Ouattara à respecter les textes. Il a réaffirmé avec M. Bédier sa volonté de lancer un projet de réconciliation et souligné l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire. Ce message avait irrité le parti présidentiel du RHDP et son numéro 2, Adama Bictodo, avait répondu que M. Gbagbo n'avait pas de leçon de démocratie à donner. Mardi, à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha ou Tabaski, le président Alassane Ouattara a appelé à poursuivre la réconciliation nationale. Que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer. Que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix, a-t-il lancé.
En Centrafrique, l'ONG Médecins sans frontières est confrontée à d'énormes difficultés en raison de l'insécurité que les groupes armés entretiennent dans certaines régions du nord et du sud-est du pays. Qu'en est-il de la Croix-Rouge centrafricaine? Félix Yepassis Zembrou a pu joindre le pasteur Antoine Bao Bogo, président de cette organisation humanitaire.
Mais vous avez la Croix-Rouge centrafricaine, elle est supranationale. Nous avons des comités locaux dans pratiquement toute la République. C'est-à-dire que nos activités sont faites par les comités locaux. Nous ne sommes pas obligés de partir de Bangui vers eux. Donc eux, ils savent quand ils font, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des difficultés, ils savent comment ils peuvent réagir.
Donc il n'y a pas de problème particulier avec les groupes armés qui sévissent dans une partie de la région, notamment la Basse-Côte.
Nous faisons avec, hein, c'est-à-dire que nous avons nos sept principes fondamentaux. Vous savez, nous avons l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Nous essayons de pousser nos activités parce que nous sommes, c'est même la population, nos volontaires, qui sont 12 000 dans le pays, ils émanent de la population. Donc, ils essaient de négocier et d'avancer sur le terrain.
Oui, mais dis-donc que Médecins sans frontières, qui travaille aussi dans les mêmes conditions que la Croix-Rouge centrafricaine, éprouve quelques difficultés. Qu'en est-il exactement?
Ben, vous savez, Médecins sans frontières fait un travail remarquable en matière de santé dans le pays. Malheureusement, il y a eu quelques semaines où on a dû arrêter un petit convoi en moto et puis il y a une dame qui était morte. Bon, ils ont quelques difficultés comme ça, mais il faut reconnaître que ce soit à Bangui comme en province, c'est une ONG qui fait un travail très remarquable auprès de la population. C'est regrettable s'ils ont arrêté ou suspendu leurs activités. Ça va être difficile en matière de santé pour la population centrafricaine.
Les émeutes et pillages qui ont ensanglanté l'Afrique du Sud ont fait 276 morts. A annoncé hier le gouvernement qui révise à la hausse son précédent bilan de 215 morts. Le point avec Mohamed Humfa.
Depuis que les troubles ont éclaté, 234 morts ont été recensés au KwaZulu-Natal, d'après un communiqué publié hier par Kumbuzo Ntsaveni, la ministre auprès de la présidence. Elle a aussi fait état de 42 morts dans la province de Gauteng, qui comprend les deux principales villes, Johannesburg et Pretoria, la capitale. La police a ouvert 168 enquêtes pour meurtre. Une partie des morts sont dues à des bousculades, des chutes d'objets, l'incendie de bâtiments et à des groupes d'autodéfense. Les troubles ont éclaté au KwaZulu-Natal le 9 juillet, au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Ils se sont ensuite étendus sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions contre le Covid-19. Il aura fallu le déploiement de quelques 25 000 soldats pour amener le calme. 6 personnes, dont un ancien présentateur de la radio publique, ont été arrêtées et sont poursuivies pour incitation à la violence. Des milliers d'autres ont été incarcérés pour pillage. Le gouvernement estime que ces violences vont coûter près de 3,4 milliards de dollars à l'économie qui subissait déjà les ravages de la pandémie de Covid-19.
La Minute Éco, John Linden.
La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a enregistré une nouvelle entreprise, la Régionale d'épargne et de crédit SA. L'intégralité des titres émis sur le marché s'élève à 61 630 actions. La Régionale d'épargne et de crédit SA est le premier établissement d'épargne et de crédit à intégrer la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale et porte à 5 le nombre d'entreprises constituant le marché des actions. Les quatre précédentes étant des entreprises agroalimentaires comme SEMC, Safacam, Socapalm et SIAT Gabon. Au Cameroun, le port autonome de Douala pourrait être contraint de payer une lourde amende au consortium APM Bolloré pour non-respect des clauses contractuelles. Cette amende pourrait s'élever jusqu'à 58 millions d'euros sur les 15 prochaines années. Malgré des décisions de justice et de la cour arbitrale qui l'ont déjà condamné 9 fois dans le procès qu'il oppose à Douala International Container au sujet de l'exploitation du terminal à conteneurs. Le consortium APM Bolloré est par ailleurs l'actionnaire des références de Douala International Terminal. Une vaste opération policière internationale baptisée Hobson X a permis la saisie de plus de 15 000 tonnes de produits illégaux, principalement alimentaires, dont la valeur marchande a été estimée à près de 54 millions d'euros, a annoncé Interpol. Les produits les plus saisis ont été des alcools, des compléments alimentaires, des faux documents de tests de détection du COVID-19, du VIH et de la malaria ont également été retrouvés.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La Guinée, qui devait envoyer une délégation de 5 athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo, a décidé d'annuler sa participation à cause du COVID-19, a annoncé le ministre des Sports. En raison de la recrudescence de variants de COVID-19, le gouvernement a décidé avec regret l'annulation de la participation de la Guinée aux Jeux de Tokyo, a écrit Sanusi Bantamaso dans un courrier adressé au président du comité olympique guinéen. La presse guinéenne évoquait pour sa part hier des problèmes de primes impayées. La Guinée n'a jamais remporté de médaille en 11 participations aux JO. En attendant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques ce vendredi à Tokyo, les hostilités ont commencé hier en football féminin. Début complètement raté pour la Zambie qui a été corrigée par les Pays-Bas 10-3. La Suède a réussi la première performance de choix de ces JO en écrasant les Américaines 3-0 lors de la première journée du tournoi de football. Dans l'autre match, l'Australie a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Chez les hommes, aujourd'hui dans le groupe C, l'Égypte fait face à l'Espagne. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire affronte l'Arabie Saoudite et le pays hôte, le Japon, joue l'Afrique du Sud. On sait qui abritera les JO en 2032. La ville australienne de Brisbane, seule candidate en lice, a été choisie pour accueillir les Jeux olympiques de 2032. Ainsi en a décidé le Comité international olympique. Les Jeux reviendront donc en Australie 32 ans après les populaires Jeux de Sydney en 2000. Bien avant, Melbourne les avait accueillis en 1956. Nous savons ce qu'il faut pour organiser des Jeux réussis en Australie, a déclaré le Premier ministre Scott Morrison. La sélection de Brisbane a donné lieu à un feu d'artifice dans la ville. Brisbane suivra la ville américaine de Los Angeles qui accueillera les Jeux en 2028. Paris, en France, accueillera ceux de 2024. Au Cameroun, Martin Kamumembe a plaidé non coupable de complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée au premier jour du procès ouvert à Douala après la diffusion sur les réseaux sociaux de la sextape d'une jeune femme en juin. Des photos et vidéos de Malika, 24 ans, entretenant des rapports sexuels dans le bureau du célèbre journaliste, directeur de Radio Sport Info basé à Douala, ont été diffusées sur les réseaux sociaux, une affaire qui a provoqué l'indignation dans le pays. Wilfried Eteki, chef traditionnel et ami du journaliste, auteur présumé de la sextape, poursuivi, a aussi plaidé non coupable. Le tribunal a ajourné l'affaire au 4 août. Les deux hommes sont détenus depuis une semaine.
Merci Yakuba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les activistes des droits de l'homme dénoncent, je cite, la confiscation de leur liberté d'expression ainsi que celle des citoyens. Plusieurs militants des droits de l'homme sont jetés en prison pour le fait de dénoncer les injustices diverses, nous dit Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Après plus de 3 mois de détention pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, l'activiste Chris Belvid Dongui reprend ses activités professionnelles. Il est venu nettoyer ses bureaux du quartier Mafuta au sud de Brazzaville. L'activiste constate ce qui en reste après la perquisition de la police.
L'internet qui était arraché, voilà, donc je sais pas pour quelle raison, des ordinateurs emportés pour aller fouiller.
Malgré son séjour en prison, Chris Dongui semble ne pas perdre un cran de recul dans son engagement pour les droits humains.
Chaque génération a un combat. Et je suis d'une génération, nous avons vu certaines générations être détruites. Mais moi, je pense que c'est la nôtre qui doit relever le défi. C'est la nôtre qui doit construire le Congo. Un Congo où l'égalité des chances sera pour tous.
Landry Louboya, la quarantaine environ, a lui aussi été détenu pour avoir dénoncé les travers de l'administration douanière. Il évoque sa grosse déception.
Ce genre d'acte, ça peut toujours arriver, ça arrive. Je ne suis pas le premier, certainement pas la dernière personne à vivre ça. J'ai dénoncé parce que j'avais acheté un article en ligne. On m'a demandé de payer des taxes qui ne sont consignées ni dans le code de la douane, ni dans un décret, donc dans aucun texte officiel où le montant était fixé. Donc pour avoir dit ça, j'ai été mis comme un bandit de grand chemin dans les geôles.
L'exercice de la liberté d'expression est consacré par la loi au Congo. Seulement, dans les faits, il existe encore des gros écarts. Georges Nguila, le nouveau directeur exécutif de l'OCDH, vient de publier un livre « La faillite des droits humains au Congo », comme pour mettre l'État face à ses responsabilités.
Mon livre, c'est un constat. Et on ne peut pas nier des faits par des arguments. Le constat, c'est que il y a la faillite. On constate qu'il y a des libertés qui sont accordées, comme celle de circuler librement. Mais la liberté d'expression est accordée aux Congolais en demi-teinte. Parce que on permet aux journalistes de la presse écrite de caricaturer le président, de dire ceci, cela. Bon, et comme on se dit qu'il y a très peu de Congolais qui achètent le journal Serpiment ou Polélé, Polélé, ou ainsi de suite... Alors, on ne censure pas, mais la presse audiovisuelle est censurée.
Il y a une semaine, les autorités ont libéré 6 activistes des droits de l'homme, dont Alexandre Nzabana, 77 ans, et dont l'état de santé reste critique et nécessite une évacuation sanitaire. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En République démocratique du Congo, dans un procès qualifié d'expéditif, Jacques Ndala, coordonnateur de la Ligue des jeunes d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a été condamné à 2 ans de prison par le tribunal de paix de Kinshasa Kinkole, selon Maître Papi Mbaki, son avocat. Dans une vidéo, M. Ndala a fait allusion à une proposition de loi controversée déposée récemment au Parlement, qui prévoit que seuls des Congolais nés de 2 parents congolais peuvent se présenter à la présidence. Quelles peuvent être les répercussions de cette arrestation sur les relations entre l'actuel président Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, qui sont en coalition au sein de l'Union sacrée? Marius Mohunga a posé la question à l'analyste politique Christian Kabange, professeur de droit à l'Université de Kinshasa.
Premièrement, c'est que au départ, on a décrié certaines irrégularités par le fait qu'il a été appréhendé par les services spéciaux. Mais très vite alors, on a essayé de rentrer dans la régularité en le présentant devant son juge naturel, qui est le tribunal de paix de Kinkole. Alors, autre chose aussi, c'est qu'il a été jugé en procédure de flagrance. Pour des faits qui remontent à 1 semaine, on peut se poser la question de savoir si réellement la procédure de flagrance était régulière. Parce que l'infraction flagrante, c'est celle qui se commet, c'est-à-dire on vous arrête au moment où l'infraction est en train d'être commise, ou alors elle est réputée flagrante lorsque on vous arrête lorsqu'elle vient de se commettre, lorsque vous êtes poursuivi par la clameur publique, ou lorsque vous êtes détenteur des faits qui prouvent que vous venez de commettre l'infraction. Bref, ça c'est une appréciation du ministère public. Il a été condamné pour incitation à la désobéissance aux lois. Et cette infraction est punissable d'une peine qui varie entre 2 mois et 3 ans. Et lui, il est écopé de 2 ans. Les proches de Katumbi considèrent certainement que c'est exagéré, mais bon, ça dépend de l'appréciation du juge.
Avant d'être transféré devant le juge, M. Jakindala a été détenu pendant 2 jours dans une prison, dans un cachot de l'Agence nationale de renseignement. Ça, ce sont des pratiques qu'a décrié le président de la République à son arrivée au pouvoir.
Ça veut dire que peut-être il y a encore, n'est-ce pas, une irrégularité qui persiste à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas comprendre que le président ait fait cette demande et que ces pratiques puissent continuer. Donc c'est un indicateur négatif pour l'état de droit.
Est-ce que cette proposition de loi a-t-elle les chances de passer à l'Assemblée nationale?
Là, évidemment, les Congolais ont le droit de débattre sur des questions qui engagent l'avenir du pays. Mais sur le plan juridique, je peux vous dire que la proposition de Noël Tchiani n'a pas de chance de passer parce que c'est un chapelet de violation de la Constitution. On peut déjà voir que cette arrestation vient aggraver ou accentuer les frictions qui existent aujourd'hui entre l'ensemble de la République et la famille politique du président Tshisekedi. Donc, si on continue sur cet élan, il est clair qu'on est en train d'aller vers une rupture totale entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi.
Est-ce que Moïse Katumbi peut faire autant peur pour les prochaines élections?
Moïse Katumbi, c'est un acteur politique de taille. Il a les moyens pour faire sa campagne. Et évidemment, pour le président Tshisekedi, moins il y a de challengers, moins il est beaucoup plus, il sera à l'aise. Mais ce que j'aimerais faire remarquer, c'est que bien que Moïse Katumbi est un acteur politique de proie, son parti ne s'est pas encore bien implanté sur l'ensemble de l'étendue du pays. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il pourra faire en l'espace de 2 ans, les 2 ans qui restent à venir. Mais ce qui va se jouer de manière générale, plus on avance vers 2023, c'est la reconfiguration, les nouvelles alliances qui vont se former. Et je pense que c'est en fonction de ça qu'on pourra déterminer que représente telle ou telle autre alliance.
L'analyste politique Christian Kabangé, professeur de droit à l'Université de Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan s'est éloignée du déni de la pandémie de son prédécesseur. Elle appelle à la distanciation sociale, au lavage des mains et au port du masque. Une troisième vague de COVID-19 déferle sur le continent africain, mais les mesures préventives sont ignorées par le public. Reportage de Charles Kombe à Dar es Salaam. Récit de Michel Joseph.
Ramadan Juma appelle les passagers de son bus de transport en commun, connu sous le nom de Dala Dala, qui circule dans la grouillante ville de Dar es Salaam. Ni le chauffeur, ni les passagers ne portent de masque pour se protéger du Covid-19. Juma estime que le manque d'instructions claires des autorités a conduit beaucoup de gens à ne pas prendre la pandémie au sérieux.
Il n'y a pas d'emphase. Je ne peux pas porter de masque lorsque je regarde autour de moi et que personne ne porte de masque. Il n'y a pas de désinfectant ni de réservoir d'eau ici. Mes confrères n'ont pas peur et moi non plus.
Il y a une semaine, pour la deuxième fois en un an, les autorités ont fourni des statistiques sur le nombre de cas de Covid-19 en Tanzanie. Au 8 juillet, il y avait 408 cas positifs, dont 284 sous oxygène. Presque toutes les régions sont touchées et les autorités affirment que les mesures sont prises pour freiner la propagation. Samia Hassan, présidente de la Tanzanie.
Le gouvernement continue de demander à chaque citoyen de prendre des précautions contre le Covid-19 en suivant les directives de nos experts en santé, car il vaut mieux prévenir que guérir. D'autre part, le gouvernement continue de prendre diverses mesures pour lutter contre la propagation et en ce moment, nous finalisons le processus d'importation des vaccins.
Le défunt président John Magufuli a nié la présence du virus en Tanzanie et découragé l'utilisation de masques. Malgré le brusque revirement du gouvernement qui lui a succédé, le public semble ignorer les efforts pour promouvoir les mesures préventives. Tito Magotti, militant des droits de l'homme, pointe du doigt la faillite des autorités dans la gestion de cette pandémie.
Le gouvernement a créé une grande division dans la société avec des gens qui ont différentes compréhensions. Il y a ceux qui croient que le gouvernement a toujours raison. Il y a ceux qui croient que pour se protéger du COVID-19, il faut manger un citron. Donc, dire à une telle personne d'accepter de se faire vacciner ou de porter un masque devient très difficile.
Le ministère de la Santé a déclaré qu'avec la faible réponse des Tanzaniens vis-à-vis de la pandémie, tout le monde doit se joindre au combat et non laisser au seul gouvernement la tâche de convaincre les sceptiques. Dorothy Gwajima, ministre tanzanienne de la Santé.
Cette épidémie est comme une guerre, car elle coûte la vie à de nombreuses personnes et affaiblit l'économie. Nous devons unir nos forces et je m'attends à vous voir avec vos caméras monter dans les transports publics pour informer les gens, une manière de participer à l'effort de guerre. Alors pourquoi les populations ignorent-elles les mesures de prévention? C'est une question qui devrait intervenir après les avoir sensibilisés.
Pendant ce temps, le chauffeur Ramadan Juma poursuit son travail malgré le risque élevé de contracter la maladie. Il dit espérer que l'accent mis par le gouvernement sur le sérieux de la pandémie va obliger les gens, en particulier ses passagers, à prendre des précautions et l'amener lui aussi à en faire autant.
Au Mali, on discutait encore hier de la tentative d'assassinat à l'arme blanche du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, mardi pendant la prière de l'Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako. Quelques réactions recueillies dans la capitale malienne par notre correspondante Mariam Kouyaté.
Il y a eu des failles parce que, à ce que je cherche, là où le président devrait se rendre pour prier, de tous les temps, c'est les portes là sont. Il y a des fouilles corporelles qui sont effectuées pour voir si les personnes n'ont pas des armes ou des couteaux avec eux. Cette fois-ci, ce n'a pas été le cas. Donc ça veut dire qu'il y a eu des failles d'abord côté sécuritaire. Comment un individu se permet de traverser la ceinture de sécurité pour atteindre le président? Quelque part, franchement, le président devrait savoir qu'il n'est pas gardé.
Pour moi, Assim n'a pas une sécurité présidentielle. Il a amené ses éléments qui étaient des commandos. Bon, or, la sécurité présidentielle, ça, on forme des gens pour ça. Il y a des bataillons qui ont été formés pour ça, mais qui ont été laissés. Assim est venu avec ses propres éléments, avec qui il était au front. C'est les gens qui sont formés, mais ils ne sont pas formés dans la sécurité présidentielle. Pour assurer la sécurité présidentielle, il y a des normes, il y a toute une formation à faire. Donc, c'est ce qui manque.
Il me semble que sa sécurité n'est pas aussi prise au sérieux comme les autres présents le font. Parce qu'il n'a qu'un seul motard, il est dans une voiture double cabine banale. Un président, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. On ne devient pas président, on est président.
Pour revoir là, tous ces gens qui sont derrière le président, c'est des gens qui sont là pour se faire montrer sur nous aussi. C'est leur rôle quand même. Le monsieur ne devrait pas atteindre le président. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on déplore et qu'il est temps que le président revoie même sa sécurité, parce que si c'est lui-même qui vient se protéger alors que derrière lui il y a des gens qui sont payés pour leur entretien et autres et qu'il n'arrive pas à sécuriser le président, je pense que le temps que le président trouve d'autres solutions et revoir sa sécurité.
Bon, l'attaque, elle est vivement condamnable. J'ai tout le temps décrié sa sécurité. Il se promène trop. Il a un premier ministre, il a un gouvernement. C'est un régime de transition. Il n'a qu'à rester sur place, prendre ses décisions au lieu de faire ces mouvements-là.
Quant à moi, il est déjà en sécurité. Assim est bien sécurisé. C'est pour cela qu'on n'a pas eu. Le monsieur, je ne sais pas s'il est normal. Sinon, une personne normale ne doit pas faire ça.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.